Une très grande fête, c'est la fête de Saint-Cyrille et Saint-Méthode. Ça vous dit peut-être rien, mais je pense bien que beaucoup de gens connaissent ces apôtres des Slaves. Ce sont deux saints qui sont allés convertir les Russes, les Polonais, les Tchèques, les Slovaques, les Yougoslaves, les Bulgares, en somme les Slaves. C'est les grands apôtres de ces grandes églises orthodoxes. Cette grande église orthodoxe de l'Europe, Cyrille et Méthode. Nous parlerons aussi aujourd'hui un peu de Jean Hus. Oh, il n'est pas catholique, au contraire, c'est les catholiques qui l'ont tué, mais c'est quand même un précurseur des grandes réformes protestantes. Il est mort en 1415, donc... plus d'un siècle avant la grande réforme protestante de Luther, mais c'est un personnage attachant quand même et merveilleux. Moi, je l'aime beaucoup, Jean Hus. C'est aussi la fête aujourd'hui de Pierre l'Ermite, le prédicateur de la première croisade. Ça pourra vous intéresser, je crois, puisqu'il est même bienheureux et c'est un personnage étonnant. Et enfin, si nous avons le temps, nous pourrons parler d'un curé remarquable, le bienheureux d'Avanza. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. Alors, nous commençons avec Cyrille et Méthode. La tradition nous enseigne beaucoup plus de choses au sujet de ces deux saints que l'histoire proprement dite. On va prendre quand même dans la tradition des choses valables. On sait que Cyrille et Méthode appartenaient à une famille de sénatoriale, c'est-à-dire que leur père et leurs ancêtres étaient des... personnage très important à Thessalonique, en Grèce. Et les gens de la cour, de la haute noblesse, auraient souhaité garder comme page l'aîné, qui était brillant et fort beau, dit-on. Mais Dieu lui paraissait beaucoup plus intéressant que les vanités du monde. Le plus jeune, lui, avait un caractère à la fois réfléchi et fougueux. C'est un futur saint qui utilise profondément sa raison. Et après avoir donc étudié à Constantinople, au cœur même de l'Orient chrétien, les deux frères ont occupé des emplois civils. Alors Cyrille a été professeur de philosophie, et l'un et l'autre ont réalisé leur idéal en devenant prêtres, tous les deux. Le roi de Moravie, c'est-à-dire aujourd'hui la Tchécoslovaquie, avait demandé à l'empereur de Constantinople de lui envoyer des missionnaires. Et la connaissance qu'avaient nos deux frères, Cyrille et Méthode, des langues slaves, ont fait qu'ils ont été choisis. Je vous rappelle, les langues slaves, ce sont les langues que parlent en particulier les Russes, les Tchèques, les Slovaques, les Yougoslaves, en partie les Yougoslaves, etc. C'est de la langue de ces régions-là qui ont donné le vieux slavon qu'ils ont utilisé, qu'ils utilisent encore en partie pour leur liturgie superbe, les orthodoxes. Alors donc, ils ont été choisis parce qu'ils connaissaient les langues slaves. Et ils avaient inventé, c'est intéressant de savoir, un alphabet slavon, ce qu'on appelle l'écriture cyrillique, du nom justement de Saint-Cyrille. Vous savez, cette belle écriture qu'utilisent les Russes est magnifique. Et alors, Cyrille a appris aussi l'hébreu pour discuter avec les Juifs, car il faut peut-être avoir lu un livre qui est paru il y a déjà un bon 20-25 ans, sur l'origine... possible des Juifs ashkénazes comme venant de la région des Khazars. Mais on en parlera peut-être un autre jour, c'est trop compliqué. Mais c'est pour ça, en tous les cas, qu'il apprend l'hébreu, parce qu'il sait que dans cette région-là habite un peuple qui se serait converti, nous disent des auteurs juifs très sérieux, qui se serait converti à la religion juive. Donc, il apprend l'hébreu pour discuter avec les Juifs, et ses deux frères missionnaires vont exercer une action toute leur vie, à la fois politique et religieuse. Alors, ils organisent donc une chrétienté d'abord en Bulgarie, puis ensuite en Moravie. en Tchécoslovaquie, comme je vous disais tout à l'heure, et chez les peuples slaves du bout de l'Empire. Il y a une anecdote qui témoigne du caractère à la fois violent et assez amusant de Méthode, Saint-Méthode. On dit qu'il apostrophait ses adversaires allemands, germaniques, là, pour les réduire à néant. Il n'y allait pas de même mort. Il dit, vous vous battez contre du fer et votre cervelle se rompra. Et tout en transpirant, il transpirait énormément, il s'excitait, il s'énervait dans ses discussions, il s'épongeait. Et puis, un jour, il a raconté, tout en sueur, une histoire qui est assez amusante. Il dit, on demandait à un philosophe, mais pourquoi suis-vous? Et le philosophe, dit Saint-Méthode, a répondu, c'est que j'ai discuté avec des idiots. Et tout ça, c'est sympathique, il était peut-être pas un saint à ce moment-là, pour traiter un peu ses interlocuteurs d'idiots, mais c'est vraiment sympathique quand même. Il faut penser avec un grain de sel, hein. Les évêques allemands ont protesté contre l'usage que les Saint-Cyrille et Saint-Méthode faisaient de la langue slave dans la liturgie, parce qu'il fallait utiliser le latin en principe, ou le grec. Alors, eux, ils considéraient que c'était un meilleur instrument de rapprochement de ces peuples, et qu'il était bien difficile de leur apprendre le latin, puis de les faire prier en latin, n'est-ce pas? Ils étaient, dirait-on, préconciliaires, eux qui sont du 9e siècle, il y a très longtemps, plus de 1000 ans. Alors donc, les deux frères sont allés se justifier à Rome, puis ils ont été approuvés par le pape Nicolas Ier, qui a trouvé leur idée excellente. Et le successeur de Nicolas Ier, qui est mort peu de temps après, les a sacrés évêques tous les deux. Le Saint-Cyrille est mort à 42 ans à Rome, en 869, mais lui, son frère, Saint-Méthode, est resté 20 ans missionnaire des peuples slaves. Il a eu beaucoup à souffrir, il est accusé d'hérésie par certains évêques bavarois, c'est-à-dire allemands, hein, si on veut. Il est interné 2 ans dans un endroit plutôt froid. Puis, libéré, bien, il est toujours persécuté, il a repris le travail, sans crainte, par amour pour l'Église. Il a été accusé par certaines personnes à Rome d'altérer, de jouer un peu avec des problèmes de la foi, ce qui était faux. Il a dû aller à 2 reprises démontrer au pape qu'il l'a soutenu, qu'il l'a encouragé. Et il est allé démontrer au pape que ses accusations étaient complètement ridicules, ces accusations qui étaient portées contre lui. C'est pas d'aujourd'hui qu'à l'intérieur des églises, à l'intérieur des divers mouvements, à l'intérieur des associations, à l'intérieur de tout, il y a de fausses accusations et les gens se disputent. Ça a toujours existé. Comme on disait quand j'étais jeune, ça se dit toujours, j'imagine, où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Je ne sais pas si il y a des femmes, il y a de la femmerie. Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire? En tous les cas, je laisse les femmes choisir et s'amuser de ce dicton où il y a des hommes, il y a de l'hommerie. L'empereur Basile de Constantinople l'a prié de se rendre à Constantinople, justement, où il a été reçu avec de grands honneurs, ce Saint-Méthode. Et l'empereur Basile aurait voulu l'envoyer encore en Russie et en Bulgarie, mais notre saint était épuisé, il est revenu en Moravie, qui était au cœur de son action, pour y mourir. En somme, concluons en disant que ces deux frères ont fait pénétrer la civilisation chrétienne chez les peuples slaves, en les évangélisant. Et c'est une civilisation qui vient de l'Évangile et qui permet à des peuples de se mieux comprendre. J'ai été témoin de ça quand je suis allé au Cameroun, où on m'a montré secrètement un film assez terrible sur les initiations auxquelles étaient soumises les garçons d'environ 12 ans, encore au Cameroun dans les années 20, avant qu'ils ne soient chrétiens. J'ai vu des sorciers, ou si vous préférez, des prêtres de religion païenne, qui étaient chargés, par la tradition, de trancher la tête des jeunes de 12 ans qui ne satisfaisaient pas à une initiation qui était très difficile. J'ai vu la tête de certains de ces jeunes roulés par terre dans ces films qui avaient été tournés par des Allemands. C'était terrifiant, j'en parle avec angoisse encore, mais ces mêmes Camerounais, Ewundo, Boulou, ou d'autres magnifiques peuples, sont tous catholiques aujourd'hui. Ils fournissent à l'Église des prêtres admirables. Ils prient ensemble dans les églises. Ils sont merveilleux. J'ai beaucoup aimé les Camerounais. Je me suis attaché à ce peuple en un mois, au point que j'avais les larmes aux yeux en remontant dans l'avion pour m'en revenir, car j'ai quitté de nombreux amis. Des gens absolument superbes, magnifiques, au cœur plein de gentillesse, d'hospitalité. Peut-être pas tous, mais la très, très, très grande majorité. J'étais enchanté de les voir dans leur foi, acclamer Dieu et recevoir l'Eucharistie. En somme, Saint-Cyrie et Saint-Méthode ont accompli la même chose chez les peuples slaves. Ils ont été des apôtres. Ils ont été aussi des intellectuels et, on peut dire, les premiers hommes de lettres de ces peuples. Je vous dis un mot du bienheureux Davanza, qui est mort il y a 700 ans. Exactement. Aujourd'hui. 700 ans aujourd'hui. C'est un curé, un vrai de vrai. Il est né en 1200, en Toscane, en Italie, à Poggibonsi. Et c'est dans cette ville qu'habitait Lucchesio. Qui est Lucchesio? J'espère que vous avez déjà lu sa vie, et j'ai lu ça il y a bien longtemps. C'est le premier tertiaire de l'ordre de Saint-François. Un saint. Et Davanza l'a connu. Et il s'est laissé conseiller par Lucchesio, puis il est entré dans le tiers ordre franciscain. Et après de fortes études, il a été ordonné prêtre. Il a été envoyé comme curé de la petite paroisse de Sainte-Lucie, près de Florence, dans la belle région de Florence. Hein. Il y est resté 70 ans curé. Mais les deux grandes vertus qui ont fait l'admiration de ses paroissiens étaient sa piété. Sa piété, hein, sa piété, sa charité aussi, sa grande charité. Pendant tout le temps qu'il n'était pas pris par son ministère, mais il se retirait le jour et la nuit dans un petit oratoire où il priait longuement. Aussi longtemps, disait-on, qu'un anachorète, c'est-à-dire un ermite, un de ces chrétiens dont je vous ai un peu parlé hier, de ces pères du désert qui vivaient dans les déserts d'Israël aujourd'hui et surtout d'Égypte. Pour pousser plus loin la ressemblance avec ces anachorètes, avec ces anciens ermites, il n'omettait ni les veilles ni les jeûnes. Quel étrange curé, hein? Et quant à sa charité, bien, aucune considération ne pouvait l'arrêter. Il ne se réservait à peu près rien des revenus de sa cure pour lui-même. Et ses revenus n'étaient pas inépuisables. Hein. Et puis, plus d'une fois, on a bien pensé que il devait y avoir quelques miracles qui s'opéraient pour lui permettre de toujours donner de plus en plus de nourriture et de choses aux pauvres. Ce bon curé, d'ailleurs, faisait des miracles. Hein. Davanza, son nom. Un jour, après un office solennel des prêtres du voisinage, eh bien, ils ont déjeuné chez lui. Ils ont eu la surprise, paraît-il. Et pourquoi pas? Mais j'aime bien ça, ce miracle-là. Ils ont eu la surprise, en versant l'eau dans leur coupe pour boire du bon vin, de la bonne eau plutôt, de l'avoir se changer en un vin qui était très très bon. Ça vous rappelle pas ça, ce miracle de Cana? Jésus a fait un miracle semblable où on disait que ce vin était devenu excellent. Alors Davanza est mort donc le 7 juillet 1295, il y a exactement 700 ans, âgé de 95 ans. Je vous dis aussi un mot des martyrs de Winchester, encore des martyrs anglais, qui ont le courage de mourir pour leur foi. C'était le 7 juillet 1591. Sont morts pour leur foi Roger Dickinson et Raoul Milner. Et Laurent Humphrey aussi. Winchester, la ville de Winchester, c'est au sud-ouest de Londres. Elle a servi de résidence à Guillaume le Conquérant. C'est une cité, bon, disons, ecclésiastique, dans le sens qu'il y a des couvents, des anciens couvents, des églises. Il y a de jolies petites rues à Winchester. Il y a des arcades. Ça respire les anciennes traditions, comme on trouve souvent en Angleterre. Hein. Ça respire d'ailleurs un esprit assez conservateur. respectueux des vieilles traditions. Et ces saints ont été respectueux des traditions chrétiennes catholiques, alors qu'il y avait opéré une réforme, qu'il y avait opéré un schisme dans l'Église catholique. Et Milner, lui, Raoul Milner, ou Ralph, c'était tout simplement un paysan, un laboureur illettré. Il était anglican au début, mais il voyait ses voisins catholiques. Il est devenu ami avec eux, il les a admirés, et puis s'est fait admettre dans l'Église catholique de ses ancêtres, ou de ses parents même. Et le jour même de sa première communion comme catholique, il a été arrêté pour changement de religion. Il a été détenu pendant plusieurs années, mais parfois on le relâchait sur parole. Voyez-vous, la persécution n'était pas aussi épouvantable qu'on peut imaginer. C'était simplement que, pour bien comprendre qu'à l'époque, quand un schisme se faisait au XVIe siècle, eh bien, la religion du roi, la religion des chefs devenait la religion du peuple afin de garder l'unité du peuple. C'était une façon de se défendre contre les espions qui pouvaient venir des autres peuples. Et c'est très complexe. Aujourd'hui, on a de la misère à comprendre ça, nous qui vivons toutes religions mélangées. On a des voisins musulmans, des voisins protestants, des voisins de toutes les religions avec lesquels on s'entend bien. C'est difficile à comprendre, mais il faut bien se mettre dans l'esprit du temps. Donc, quand il était en captivité, ben, il leur procurait des secours matériels et spirituels, puis il aidait les prêtres arrêtés, les prêtres catholiques missionnaires, qui étaient au fond des Anglais, qui étaient partis de France après leurs études et leurs ordinations. Alors, il les aidait en prison. Il a connu ainsi un jésuite, le père Stanley, puis un prêtre séculier, Roger Dickinson, qui était né dans le comté de Lincoln, et puis il avait étudié à Reims pendant plusieurs années, puis il travaillait dans la région de Winchester, qui était aidé par ce Ralph Milner. Et l'abbé Dickinson a été arrêté une première fois, mais ses gardes avaient bu, et puis il s'est échappé. Puis une seconde fois, il fut arrêté avec notre ami Milner, qui a été béatifié. Et le juge était enclin à la pitié quand il voyait Milner, parce qu'il le respectait, il était âgé, c'était un bon juge, ce juge anglican. Il voyait que Milner était âgé, était marié, était père de 8 enfants, alors il lui a conseillé de faire une visite, simplement une visite à la paroisse officielle anglicane. Et on le tiendrait alors comme étant réconcilié avec l'Église anglicane. Comme vous voyez, il était large d'esprit, ce juge, et puis il serait libre. Mais Milner a refusé. Étrange, hein? Il n'a même pas voulu rentrer dans une église anglicane. Souvenez-vous, quand on était jeunes, nous les gens âgés, moi je suis très, très âgé, et alors quand on était dans les années 30, les protestants, on disait qu'il fallait pas rentrer dans leurs églises. Ma mère m'a amené dans les églises protestantes, particulièrement dans les belles églises de la rue Sherbrooke, ou bien à la cathédrale anglicane, près de Morgan, dans le temps, la baie aujourd'hui est Eton. Puis elle trouvait ça très beau, puis on m'amenait voir la crèche au temps de Noël. C'était tellement beau, la crèche des Anglicans. Et elle aimait bien les Anglicans. J'avais d'ailleurs un oncle qui était anglican que j'aimais beaucoup. Mon oncle Chauncey, un nom très britannique, un violoncelliste, ingénieur. On l'aimait bien, notre oncle anglican, le beau-frère de ma mère. Et alors, le prêtre et le paysan en lui... Milner, qui était paysan, c'était le laboureur apôtre. Hein. Et puis un jour, 7 demoiselles de bonne famille, qui étaient coupables d'avoir autorisé l'abbé Dickinson à célébrer la messe chez elles, ont été condamnées à mort avec sursis. Alors elles insistèrent pour partager le sort de leur prêtre. On les a envoyées en prison. Et je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait un saint qu'on vénérait aujourd'hui, Laurent Humphrey. Lui, c'était un brave jeune anglican du pays qui avait été converti par notre père Stanley, dont il était question tout à l'heure, était en prison. Et Raoul Humphrey s'est mis à catéchiser, lui. Et puis, il secourait aussi les catholiques prisonniers. Alors, Laurent Humphrey, ou Lawrence Humphrey, est tombé malade dans une crise de délire. Il aurait dit que la reine, Élisabeth Ière, il était vraiment, ou bien il avait bu, ou je ne sais quoi, il a dit qu'elle était une prostituée, une hérétique. Alors, vraiment, là, les propos ont été rapportés aux autorités qui l'ont interné. Il était encore fiévreux, ce pauvre Humphrey. Il a été interrogé, il a confessé sa religion, comme étant la religion catholique, mais il a déclaré qu'il n'avait aucun souvenir d'avoir dit des paroles irrévérencieuses envers la reine, et néanmoins, il a été pendu et écarri. Il avait 31 ans. On ne s'attaquait pas à la réputation de la reine. Ces martyrs ont été béatifiés avec de nombreux autres en 1929. Je vous raconte ça, je vous le répète, au cas où il y a des gens qui m'ont pas entendu avant. Je vous raconte pas ça pour vous dire que les Anglicans sont des gens atterrés, pas du tout. On en a fait, nous aussi, les catholiques, et je vous signale qu'on en a fait à Jean Hus. Ce tchèque admirable, ce prêtre catholique admirable, car peu de réformateurs protestants ont été l'objet de polémiques aussi passionnées. Beaucoup de catholiques penchent un peu du côté de Jean Hus sans partager certains de ses points de vue par rapport à la papauté et peut-être aussi un petit peu à l'égard de l'Eucharistie, mais je ne crois pas qu'il ait dit des choses contraires à la croyance profonde et traditionnelle des catholiques et des orthodoxes à l'égard de la très sainte Eucharistie. En tous les cas, c'est un grand annonciateur des réformes du XVIe siècle. Il est mort, je vous l'ai dit tout à l'heure, en 1415, plus de 100 ans avant la grande réforme de Luther. Mais toute sa vie, c'était un homme très important. Vous savez, il a été doyen de la faculté de théologie de Prague, en Tchéquie aujourd'hui, n'est-ce pas? Qu'on appelle ça la Tchéquie, la partie de la Tchécoslovaquie qui s'est séparée de la Slovaquie. Et tout récemment, il enseignait un retour à la pauvreté évangélique, mais il s'était acquis à la papauté qui était très décadente à l'époque. Il disait que c'était pas de nobles représentants du Christ ou de Saint-Pierre s'il n'imitait pas également les mœurs. Alors, il n'acceptait pas qu'un pape ne soit dévergondé, ou du moins malhonnête. Il a prononcé des réquisitoires fougueux contre les indulgences, et je ne le blâme pas jusque nécessairement, puisque on utilisait, n'est-ce pas, la vente d'indulgences pour financer des guerres d'un pape qui était contesté et qui était finalement déclaré illégitime. C'était Jean XXIII, l'antipape Jean XXIII. C'est pour ça que notre Jean XXIII du XXe siècle a repris ce nom pour le sanctifier, car il y avait eu ce pape terrible, ce faux pape Jean XXIII, sous lequel qui régnait au temps de Jean Hus. D'ailleurs, un siècle plus tard, Luther a reconnu dans ce prêtre, qui était issu d'un milieu modeste, Jean Hus, et qui était, comme je vous ai dit, devenu doyen de la faculté de théologie de Prague, et qui avait écrit dans la langue de son pays, aussi bien qu'en latin, qui était excommunié, qui était condamné au bûcher en juillet 1415, il est mort le 6 juillet 1415, c'était hier, cet anniversaire terrible. C'est terrible de penser que dans l'histoire de notre Église catholique, nous avons commis des crimes qui, me semble, sont très malheureux et très maladroits. Et je crois qu'il faut faire amende honorable. Il faut pouvoir dire à nos frères protestants qu'on comprend. On comprend, n'est-ce pas? D'ailleurs, Jean Hus a répété tout au long de son procès qu'il n'a jamais tenu les erreurs qu'on lui reprochait. Jean Hus s'en est pris surtout aux abus, n'est-ce pas, d'une église qui était en pleine crise, qui était déchirée par des luttes intestines entre les partisans. Il faut bien dire qu'il y avait trois papes à l'époque, trois papes ensemble, dont l'un a été déposé par le concile qu'il a convoqué lui-même, ce Jean XXIII dont je viens de vous parler. Le second a abdiqué, qui s'appelait Grégoire XII, puis le troisième a été déposé par le concile de Constance, convoqué par Jean XXIII, il s'appelait Benoît XII. Alors imaginez, c'était terrible. Il a déclaré des choses admirables, ce Jean Hus. Je ne peux pas tout vous les dire, mais entre les cas du fond de sa prison, il a tiré les leçons de son expérience. Il a multiplié les recommandations à ses amis pour qu'ils restent fidèles à l'Évangile et à la véritable Église, et qu'ils mettent en pratique les vrais conseils évangéliques dans leur vie quotidienne. Donc, c'est le 6 juillet qu'il a été brûlé. Et d'accord, il n'a pas toujours été absolument fidèle à la foi catholique, mais je crois qu'il ne méritait pas, semble-t-il, d'après ce que j'ai pu lire, ces tourments qu'il a subis avant de mourir. Jean Hus. Nous pouvons ajouter un mot du bienheureux Pierre l'Ermite. On entend souvent ce nom, Pierre l'Ermite. Que de fois on entend ce nom, mais on ne sait pas qui il est au juste. Il est né à Amiens, ou Amiens, si vous voulez. En 1050, c'est au nord de la France, c'est pas tellement loin de la Belgique. Et c'est lui qui a prêché la première croisade. Est né Jésus, Bethléem, où il a grandi, Nazareth, où il a prêché, où il a vécu, Jérusalem, où il est mort et ressuscité. C'était des lieux saints pour les chrétiens, les catholiques, qui vivaient en Europe à l'époque. Quand Pierre l'ermite demande à la foule d'aller libérer les lieux saints, c'est pour permettre aux chrétiens d'aller vénérer ces lieux. C'était important pour eux. Très important. On n'a pas idée de l'importance que ces gens attachaient au pèlerinage, à la méditation de la vie de Jésus sur les lieux, car la grande majorité des gens ne savaient ni lire ni écrire. Ils n'avaient aucune autre connaissance que celle des sermons, et petit à petit, à travers les siècles qui ont suivi, la connaissance qu'ils acquéraient en contemplant des vitraux qui leur racontaient l'histoire, comme on dit, du salut, c'est-à-dire l'histoire de la Bible et l'histoire de l'Église. Et alors les foules se pressent à la suite de cet homme étrange qu'est Pierre l'ermite. Il est maigre, il a les yeux ardents, il a la barbe grise. Il est monté comme Jésus sur un ânon. Il est vêtu d'une robe grossière, il s'en va par les routes, il s'arrête au carrefour, sur les places publiques, il harangue les citadins, les seigneurs, les hommes du peuple, avec les mêmes mots à l'emporte-pièce, et on le dit chargé par le Seigneur Jésus de la mission sacrée de délivrer Jérusalem des mains des musulmans, comme on disait des infidèles, eux qui nous appellent chrétiens des infidèles. Voyez-vous, on se traite d'infidèles les uns les autres. Sachons que nous sommes tous les deux d'un les musulmans et nous, fidèles à ce que nous croyons et c'est tout. Et il faut donc avoir de plus en plus du respect les uns pour les autres. Et on sait que Pierre l'ermite, je vous l'ai dit, vient du Nord, là-bas, ce qu'on pourrait appeler la Picardie. Il a tout quitté. Il s'est rendu auprès du pape Urbain II et son éloquence est persuasive. Alors on le suit. Et les gens sont gagnés à la cause, si ardemment, qu'avant que l'armée véritable soit prête, bien, les pèlerins sont déjà partis, sont rendus à Constantinople après 3 mois de voyage. C'est une catastrophe. Le massacre les attend. Mais lui, Pierre l'ermite, en réchappe, parce que sur 25 000 personnes, il n'en reste plus que 3 000 vivants. Ils ont été massacrés. Alors, par les musulmans. Il se penche inlassablement sur les plaies qu'ont subi dans leur corps et dans leur âme, tous ceux qui continuent à se remettre de tout ça. Et alors, Pierre l'ermite se rend en porte-parole devant le calife lui-même, c'est-à-dire le souverain des musulmans, qu'on pourrait appeler le successeur de Mohammed. Hein. Il se rend auprès du calife, puis il le supplie à genoux d'abandonner Antioche aux chrétiens. Pourquoi Antioche? Mais c'est la ville où Saint-Pierre a déjà résidé. Hein? Saint-Pierre a déjà résidé à Antioche. Elle est sanctifiée par le premier pape, et c'est une ville, de Turquie, elle a déjà appartenu à la Syrie. Et encore, un soir, sur l'emplacement même du jardin des Oliviers à Jérusalem, où les apôtres s'étaient endormis, bien, Pierre l'ermite a prononcé un de ses plus beaux discours, un des plus beaux discours qu'on ait jamais entendu. Finalement, Jérusalem est conquise et arrachée aux musulmans, et il va rester là pour restaurer le culte chrétien, le culte catholique. Il organise les cérémonies. Et on suppose qu'il est revenu en Europe, en France, avec les croisés de Liège, la ville de Liège en Belgique, pour fonder, dédié au Saint-Sépulcre, une église qu'il appelle l'église du Saint-Sépulcre, un monastère aussi, où il termine sa vie avec des religieux qui sont venus le rejoindre. Parlant de religieux, il y en a une qui a vécu au siècle dernier et dont c'est la fête aujourd'hui. Elle n'est ni béatifiée ni canonisée, mais je l'aime beaucoup. C'est une petite carmélite qui annonce Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus par sa profonde dévotion à la Sainte Face. Elle est entrée au Carmel de Tours à l'âge de 23 ans. Elle s'appelait Perrine Éluère. Elle est connue sous le nom de Sœur Marie de Saint-Pierre. Elle est née à Rennes le 4 octobre 1816. C'était la sixième d'une famille de 12 enfants. Son père était maître serrurier, comme Louis XVI, qui était serrurier, ou maître serrurier Louis XVI, oui. Et c'est sa mère qui élève les enfants. Puis elle perd sa mère à l'âge de 12 ans. Alors elle se confie à la Sainte Vierge, et elle ira à l'école pendant 2 années. Puis finalement, elle travaille dans un atelier de couture de ses 2 tantes. Et c'est à l'âge de 17 ans que s'éveille en elle la vocation du Carmel. Et comme je vous ai dit, elle est devenue carmélite à l'âge de 23 ans, en 1839. À son entrée au Carmel, elle a une dévotion à l'égard de l'enfant Jésus. Et de la Sainte Famille aussi, ça l'attire. Et au soir de sa vie, Sœur Marie de Saint-Pierre commence son itinéraire spirituel. Il lui semble que son entrée au Carmel a élargi son horizon intérieur. Elle disait, « Je n'avais jusqu'alors travaillé que pour moi. Je n'étais chargé que du seul soin de ma petite perfection. Mais en entrant au Carmel, qui est tout dévoué aux besoins de l'Église et à la gloire de Dieu et au salut des âmes, eh bien, notre Seigneur voulait m'enseigner ce dévouement, cet esprit de sacrifice, ce zèle pour le salut du prochain. C'est une vertu sublime et désintéressée que je ne connaissais pas encore. » C'est très beau, hein? Et c'est un moment crucial dans la vie de cette jeune femme, cette entrée au Carmel. Elle s'ouvre ainsi au sens de l'Église et aux grandes perspectives de la rédemption. Puis elle prend conscience, cette petite fille, du grand nombre d'âmes qui refusent Dieu. Elle déclare, « Notre Seigneur me dit qu'il désirait que je m'offre tout entière à lui pour l'accomplissement de ses desseins, que je m'abandonne pour ses mêmes désirs, me faisant entendre qu'il aurait soin de mon intérêt et qu'il se ferait lui-même le directeur de mon âme. » Elle écrit ça au premier mois de son noviciat. En somme, elle sait bien que si on s'occupe de Dieu, Dieu s'occupe de nous. En elle naît un nouvel attrait intérieur. Elle veut consacrer chacun des moments de la journée à l'un des mystères de la vie de Jésus. Et le 26 août 1843, dans sa prière, elle reçoit des lumières sur la sainteté de Dieu et la sainteté du nom de Jésus. On trouve ça dans l'Épître aux Philippiens. Et elle se rend compte de la nécessité de réparer les insultes qui sont faites à Dieu, les blasphèmes, et aussi la profanation du dimanche, qui est grandement profanée aujourd'hui. On n'a plus le sens du dimanche. Il vous raconte une anecdote qui m'a été racontée il y a quelques jours. Un petit garçon de 9 ans, Raphaël, reçoit un appel d'un ami un dimanche matin. Il veut le voir. Raphaël, qui est très croyant, lui dit, « Mais comment ça, tu ne vas pas à la messe? C'est dimanche, tu viens de faire ta première communion. » Et l'autre dit, « Ben, j'ai pas le temps d'y aller à la messe aujourd'hui. » Et Raphaël de lui dire, « Comment ça se fait si tu n'as pas le temps d'aller à la messe? Comment veux-tu qu'on se voit si tu n'as pas le temps d'aller à la messe? » 9 ans. Pas bête. Petit garçon qui est élevé chrétiennement par son père et sa mère. On lui donne le sens de la messe. Il va à la messe depuis l'âge tous les jours, ou pas assez souvent du moins quand il ne va pas à l'école. Presque tous les jours avec son père. Il a le goût de servir la messe avant même d'avoir fait sa première communion, puis il l'a déjà servi. Aujourd'hui, c'est un petit bonhomme, je le connais, c'est un petit bonhomme d'aujourd'hui. Donc, le Seigneur Jésus indique à Sœur Marie de Saint-Pierre qu'elle doit s'efforcer d'obtenir une association dans le but de réparer les insultes faites à Dieu, pour que les gens s'amendent, pour que les gens se convertissent, pour que les gens changent et que leur cœur soit rempli d'amour, quoi. Alors, Marie de Saint-Pierre accueille cela avec la supérieure, Marie Saint-Pierre l'accueille, mais sa supérieure, qui s'appelle Marie de l'Incarnation, chose surprenante, est plutôt indifférente à ça. Elle croit que c'est une petite lubie. Alors la prieure du Carmel est de plus en plus persuadée, petit à petit, de l'authenticité des expériences mystiques de Sœur Marie Saint-Pierre. Alors elle l'autorise à prononcer l'acte de parfait abandon de tout pour Dieu. L'abandon, c'est-à-dire S'abandonner intérieurement totalement à Dieu, c'est très difficile à comprendre si on n'a pas lu certains auteurs mystiques. Se confier à Dieu comme étant la source de tout amour et dans la certitude que, uniquement uni au cœur de Dieu, peut-on trouver la paix, le bonheur et la joie. C'est pas facile à comprendre. Je vous conseille de lire les mystiques. Vous saisirez jusqu'à quel point cela donne un bonheur inexprimable. Le 25 décembre 1843, elle peut prononcer l'acte, qu'elle intitule « Acte d'une parfaite donation à Jésus, selon l'étendue de sa volonté sur moi, pour l'accomplissement de ses desseins à la gloire du Saint-Nom de Dieu. » Et le 27 octobre 1845, elle reçoit une nouvelle lumière durant son oraison. Elle écrit « Notre Seigneur m'a fortement appliqué à la contemplation de sa face adorable. » Voilà, ça commence. « Et il m'a fait connaître par la lumière de ses divins rayons que cette face auguste et sainte, offerte à nos adorations, était le miroir ineffable des perfections divines qui sont renfermées, exprimées, contenues dans le très saint nom de Dieu. » Vous savez, une petite sœur du 19e siècle qui écrit des choses aussi solides, aussi fortes, qui semblent inspirées par saint Paul lui-même, ça mérite d'être connu. Sœur Marie de Saint-Pierre souffre beaucoup, car elle ne réussit pas à fonder l'œuvre de la réparation. Et dans la face du Seigneur, elle contemple le reflet, dit-elle, de la Trinité, Père, Fils et Esprit-Saint. L'image des perfections divines rendues visibles sur notre terre. Écoutez bien ça, c'est très beau pour une... Moi, je trouve ça étonnant qu'une simple petite carmélite écrive des choses aussi sublimes. Elle dit, « Ce divin sauveur m'a fait entendre qu'il avait résolu de faire connaître la vertu de sa face adorable pour réimprimer dans les âmes l'image de Dieu qui était effacée dans un grand nombre par le péché. Ensuite, il m'a montré, dans l'apôtre Saint-Pierre, n'oubliez pas, il s'appelle Marie de Saint-Pierre, hein, ensuite, il m'a montré dans l'apôtre Saint-Pierre un exemple de la vertu de sa sainte face. Pierre la tourna, mais c'est-à-dire Jésus la tourna sa face vers cet apôtre infidèle. Et Pierre devint pénitent. Jésus regarde Pierre et Pierre pleure amèrement. Dans la lumière de Dieu, je vois que cette face adorable est comme le cachet de la divinité. Qu'elle a la vertu de réimprimer dans les âmes qui s'appliquent à elle l'image de Dieu. Je suis tout à fait convaincu de ça. Certains d'entre vous me connaissez. J'ai fait un film qui a heureusement eu beaucoup de succès sur le Saint-Suaire de Turin, particulièrement sur la face de Jésus qui nous est laissé dans le Suaire de Turin, que l'on connaît depuis 1898 vraiment. Elle a vécu avant ça. C'est autre chose, cette face de Jésus, d'après des images anciennes, des images dessinées. Mais elle ressent déjà un tel amour pour Jésus qu'à travers ses dessins, elle découvre l'âme de Jésus. Ce thème de la restauration de l'image de Dieu en l'homme, c'est déjà présent quand on y pense chez saint Irénée de Lyon que l'on a célébré la semaine dernière. C'est présent aussi dans des grands théologiens de l'école de Saint-Victor. Il faudra qu'un jour je vous parle de Saint-Victor. Il y a un très beau livre publié par les éditions Anne-Sigy sur la mystique de Saint-Victor au 12e siècle. C'est très très beau. Hein? Tout ça est développé déjà depuis des siècles. Et durant des mois, Dieu se fait silence auprès de cette petite sœur. Alors elle souffre intérieurement comme dans un désert. Mais Dieu, dans le désert, prépare le terrain. Et d'autres lumières vont lui être communiquées. Alors je laisse à sœur Marie de Saint-Pierre de rendre compte de son cheminement. Elle dit, « Avec ma sainte face, dit le Seigneur, vous ferez des prodiges. Maintenant, ceux qui ne reconnaîtront pas ici mon œuvre, c'est qu'ils fermeront les yeux. Combien de gens ferment les yeux? On leur montre la sainte face du Suaire de Turin. Ils ne ressentent rien. On se demande comment ça se fait. Pensez-y que cette photo que l'on a aujourd'hui, je tiens à le dire, je l'affirme avec la conviction de tout mon cœur, c'est la seule photo prise avant l'invention de la photo. Bon, l'invention de la photo, 1835. Et nous avons une photo de Jésus. Qu'est-ce qu'on en fait? Non, tu m'as supporté à sauter de joie. D'une joie douloureuse devant la douleur de Jésus sur la sainte face qui nous est donnée. Mais c'est curieux comme on n'a pas le respect. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'il y a? Alors, elle écrit le 29 octobre 1845, sœur Marie-Saint-Pierre, « Ayant pris pour sujet de mon oraison la trahison de notre Seigneur par Judas, je considérais avec douleur quel outrage avait reçu la sainte face du Sauveur par un baiser si perfide. » Et écoutez ça. « Et il me semblait qu'il m'invitait à baiser l'image de sa sainte face avec beaucoup d'amour, en esprit de réparation. » De réparation de ce baiser de Judas. « Souviens-toi, écrit-elle le lendemain, le 30 octobre 1845, « souviens-toi, ô mon âme, de la divine instruction que ton divin époux t'a donnée aujourd'hui sur sa face adorable. Souviens-toi que ce divin chef représente le Père éternel. » C'est-à-dire que cette tête, le chef, c'est la tête, hein? C'est ça qu'elle veut dire. « Souviens-toi, si vous voulez, que cette tête représente le Père éternel qui n'est point engendré. » Que la bouche de cette sainte face représente le Verbe divin engendré par le Père, et que les deux yeux de cette face mystérieuse représentent l'amour réciproque du Père et du Fils, car ces yeux divins n'ont tous les deux qu'une même lumière, une même connaissance, et ne produisent qu'un même amour qui représente le Saint-Esprit. » Oh, il y a des gens qui vont dire « c'est trop mystique pour moi ». Mais c'est très beau. Ayez un peu le sens, disons, du surréalisme. Avez-vous déjà lu André Breton? Avez-vous déjà regardé des tableaux de Salvador Dali? Avez-vous déjà apprécié des tableaux de Magritte, ce grand peintre belge? Avez-vous déjà aimé des peintres surréalistes? Avez-vous déjà aimé le théâtre surréaliste? Si oui, comment ne pas apprécier aussi ce surréalisme étonnant, mystique, trinitaire de cette petite fille, de cette petite Carmélite. C'est magnifique. Elle continue en écrivant « Contemple en sa chevelure la diversité des perfections adorables de la Sainte Trinité. Vois dans cette tête majestueuse la pièce précieuse de l'humanité du Sauveur, l'image de l'unité de Dieu. » Elle termine en disant « C'est donc cette face adorable et mystérieuse du Sauveur que les blasphémateurs couvrent de nouveaux opprobes et renouvellent en quelque sorte les souffrances de la Passion. » En attaquant par leur blasphème la divinité dont elle est l'image. Alors, passionné par cette face, tout au long de sa vie, sœur Marie de Saint-Pierre s'est laissée purifier généreusement. La souffrance lui est restée fidèlement attachée. Tout se passe, sa mort en une semaine. Le médecin conclut à une phtisie pulmonaire fortement caractérisée, puis on la transporte à l'infirmerie. Elle refuse tous ses objets de piété. Elle dit « c'est maintenant qu'il faut tout sacrifier ». Alors ses sœurs des Carmélites essaient de la convaincre, de demander à Dieu un soulagement, et elle répond « Non. En fait, souffrance et de sacrifice, je n'ai jamais rien demandé à Dieu de particulier, mais aussi je ne lui ai jamais rien refusé. » Mais elle n'a jamais demandé à souffrir, mais elle ne refuse pas de souffrir. Et au moment de son entrée à l'infirmerie, elle confie à la prieure du Carmel de Tours, « Ma mère, je pense au jugement de Dieu, je pleure mes péchés. » Donc, cette conscience du péché chez les grands saints, je dis que c'est une grande sainte, peut-être qu'elle n'en est pas une, pour moi, elle l'est. Alors, sœur Marie de Saint-Pierre ne peut plus s'alimenter, la gorge, la langue, la bouche sont irritées, plus de sommeil, elle n'a plus de sommeil. La fin pénible de sœur Marie de Saint-Pierre reproduit par avance ce que vivra notre chère Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, que j'aime beaucoup. Un jour, je vous en parlerai. Je suis très attaché à Thérèse de l'Enfant Jésus. Quand on la connaît, c'est une femme très forte. C'est pas la petite fille niaise des statues à l'eau de rose. Elle n'a rien à voir. Alors, la mort prochaine de sœur Marie de Saint-Pierre l'a fait tressaillir de joie. Elle dit « Mon heure est venue. Quand, ô mon Dieu, vous verrai-je face à face et sans voile ?» Alors elle souffre beaucoup, elle dit « Je désire rester fidèle avec mon Dieu, car je ne puis presque plus parler. On croit que je dors, mais non, je suis uniquement occupé de lui. Bientôt je contemplerai sa face adorable. Bientôt je chanterai ses louanges pour une éternité. » Alors la jeune moniale, la jeune carmélite a tout à faire à Jésus. Elle souffre de plus en plus. Il lui était impossible de dire où elle souffrait le plus. Elle déclare, de toutes les parties de mon corps, c'est un martyre universel. Mon lit est un purgatoire, je brûle. Le feu me consume, et chaque instant me paraît un siècle. Demandez pour moi la patience. Je vous en conjure, je ne veux plus que mon crucifix. J'ai sans cesse les yeux sur lui, car il m'aide à souffrir. Et c'est vrai que pour un chrétien, la contemplation du crucifix ou de la sainte face aide à souffrir. Mon amour est crucifié, Jésus, et je suis crucifié avec lui. Et le 7 juillet 1848, c'est un anniversaire aujourd'hui, cette petite carmélite entre en agonie. Mais elle ne perd pas connaissance et la prière fait le récit de ses derniers moments. La prière qui part, elle baisait sans cesse son crucifix, ayant le sourire sur les lèvres. Puis, elle le serrait sur son cœur en disant, « Il est à moi, je suis à lui. » Quel bonheur de souffrir. C'est étrange, hein? Le bonheur de souffrir. C'est un élan mystique, ça ne s'explique pas. Si vous ne le vivez pas, vous ne pouvez pas comprendre. Alors les forces de Sœur Marie de Saint-Pierre l'abandonnent de plus en plus. Elle se tourne vers sa prière et lui demande, « Ma mère, quand ?» Et la prière lui répond, « Bientôt, mon enfant, dans quelques moments. » Et les dernières paroles qu'elle prononce sont « Jésus, Marie, Joseph ». Ça semble bien innocent, hein? Mais c'est une famille admirable que celle de Jésus, de Marie, de Joseph, qui sont des saints parmi tout autre, les grands saints. Jésus, c'est plus qu'un saint, c'est Dieu lui-même, et Marie et Joseph. Et elle déclare « Jésus, Marie, Joseph, venez, Seigneur Jésus ». Sit nomen Domini Benedictum. Que le nom de Dieu soit béni, c'est ça qu'elle veut dire. Et vers midi, elle jette un cri, puis elle expire doucement. C'est le samedi 8 juillet 1848. C'est demain, cet anniversaire de sa mort. À sa mort, elle a 31 ans, 9 mois et 4 jours, et de vie religieuse, 8 ans et 8 mois.